Alors, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Philippe Aujard, qui est maître de conférence à l'Université de Mulhouse et qui est un de mes élèves, enfin, s'il me fait l'honneur de se reconnaître mon élève, un de ceux pour qui j'ai le plus d'estime et d'amitié. Tout ce qu'il a fait est remarquable. Et puis, je le dis, quitte à le faire rougir, parce que c'est un parcours intéressant. Philippe Aujard était professeur de classe préparatoire, ce qui est un poste envié, honorable, intéressant, etc. Mais il voulait faire de la recherche. Et non, il a fait une thèse, il a depuis soutenu une habilitation, il est entré dans l'enseignement supérieur, où, par les temps qui courent, les conditions de travail, c'était un sacrifice. Mais ce qu'il a produit pour notre discipline valait le sacrifice, c'est pas pour lui, mais pour nous, ça le valait. Et alors, ma seconde raison de l'admirer, c'est que c'est un esprit très différent du mien et beaucoup plus sérieux. Il fait des choses beaucoup plus sérieuses. Et il a le sens... ses intérêts le poussent, enfin, je ne dirais pas, c'est de mon temps, on disait la sociocritique, c'est affreux, mais il a un goût pour la sociologie, il est à l'écoute de Bourdieu, mais il le fait, on peut le faire mal, ce genre de choses, appliquées à la littérature, mais il le fait de façon admirable parce qu'il le fait avec subtilité, avec délicatesse et en même temps avec une fermeté et une rigueur, la rigueur qui me manque. Il a d'abord sa thèse portait sur les fratries et les relations entre frères, entre l'aîné et le cadet, dans les romans médiévaux. Du roman de Thèbes à Renaud de Montauban, Une jeunesse sociale des représentations familiales, c'est un livre qui a paru au PUF peu de temps après la soutenance de la thèse, parce que c'était vraiment un livre remarquable, en 2002. Et c'est à ce propos qu'il a eu l'occasion de s'intéresser à Hugues Rotland, chez lequel il y a des histoires de frères, enfin, surtout dans l'autre roman, Protheseris. Et il a soutenu une habilitation il y a 2 ans, plus d'un an, oui. Ruse médiévale de la générosité, donner des pensées dominées dans la littérature épique et romanesque des XIIe et XIIIe siècles, c'est-à-dire qu'il s'est intéressé, alors c'est là que sa formation dans le domaine de la sociologie, de l'anthropologie historique a été extrêmement précieuse, cette vertu toujours exaltée de façon parfois un peu étrange dans la littérature du Moyen-Âge, la largesse, la générosité, mais la générosité qui peut aller jusqu'à l'excès. À quoi engage cette générosité? Que signifie-t-elle? À quel modèle social répond-elle? Sont des questions qui avaient... sur lesquels certains s'étaient déjà penchés, mais personne de façon aussi rigoureuse et aussi informée dans les domaines autres que la stricte littérature du Moyen-Âge que Philippe Aujard. Et donc, il est tout à fait dans ses intérêts, si je puis dire, en nous parlant aujourd'hui de l'abaissement des grands par la condition de vilain dans quelques textes des XIIe et XIIIe siècles.
Je vous remercie de cette présentation et je tiens aussi à remercier publiquement Monsieur le professeur Michel Zinc de m'avoir invité à participer à son séminaire. Ça a été pour moi un grand plaisir que de réfléchir à cette problématique si stimulante de l'humilité et de l'humiliation, et c'est pour moi un grand honneur d'être ici devant vous aujourd'hui. Les cas de figure où l'on voit de puissants personnages ou des personnages ou des personnes de haute naissance réduits à connaître la condition de vilain sont peu fréquents dans nos plus anciens textes en langue française. Ces cas de figure ne peuvent constituer, à proprement parler, un motif littéraire, en raison d'abord de leur trop petit nombre, mais pas seulement. Ces cas de figure, tout en présentant d'évidentes ressemblances, ne font pas apparaître de structures fixes susceptibles de leur conférer une fonctionnalité narrative propre. Ils ne possèdent pas non plus d'unité de signification immédiatement repérable, ni par conséquent d'autonomie sémantique par rapport à l'ensemble dont ils font partie. Ils méritent pourtant d'être étudiés et d'être étudiés ensemble. Avant de dire pourquoi, précisons ce que nous entendons par « condition de vilain ». Nous ne réduisons pas ici le sens du mot « vilain » à son sens étymologique de paysan ou de villageois, ni même à celui, plus large, d'homme de basse condition, la formule présentant de lourdes ambiguïtés en raison de sa relativité. En effet, le terme de vilain dans les textes littéraires renvoie moins à un statut social défini ou à une réalité sociologique précise qu'il n'exprime un point de vue. Un point de vue négatif qui est un point de vue de classe, un point de vue essentiellement aristocratique et qui englobe tous ceux qui ne sont pas nobles et qui appartiennent à ce groupe que la théorie des trois ordres définit par sa fonction, le travail, la production et la circulation des biens et des richesses, et cela sans tenir compte des différences pourtant considérables de fortune et de position sociale qui peuvent séparer les membres de ce même groupe. Le mot de vilain peut donc aussi bien désigner le gardien de troupeau, sous la forme d'un géant hideux dans le Chevalier au lion de Chrétien de Troyes, que le prévôt Thierry dans la chanson d'Hervy de Metz, une chanson du début du XIIIe siècle, un homme riche et puissant, que le duc Pierre de Lorraine, complètement ruiné, marie à sa fille et installe ainsi à sa place en raison de ses qualités d'administrateur. Le terme, c'est à noter, étant systématiquement placé dans la bouche de personnages nobles, des détracteurs du bourgeois enrichi et élevé à la condition sociale la plus haute, mais jamais directement assumé par le narrateur lui-même. Le mot vilain est un mot de la langue, certes, mais c'est surtout un mot de la langue aristocratique. Un mot qui blesse les cœurs, dira plus tard le poète Stage Deschamps dans une ballade intitulée « Sur l'égalité entre les hommes ». Un mot qui appartient à une langue idéologiquement marquée et qui véhicule des préjugés et des valeurs dont la vocation est de transformer en fait de nature une division sociale qui est le produit de l'histoire. Phénomène dont Eustache Deschamps semble avoir d'ailleurs en partie conscience, lui qui montre en effet dans cette même ballade Adam en train de s'étonner de la répartition de ses descendants en deux groupes inégaux, les vilains d'un côté, les nobles de l'autre. Enfant, enfant, de moi Adam venu, qui après Dieu suis père Promerin, creué de lui, tous estes descendus naturellement de ma côte et de vin, vos mères fut. Comment est l'un vilain, et l'autre prend le nom de gentillesse, de vous, frère, dont vient telle noblesse, je ne le sais. Ce n'est des vertus, et les vilains de tout vice qui blessent. Vous êtes tous d'une pelle revêtus. Mes enfants, issus de moi, Adam, qui suis après Dieu le premier père créé par lui, vous tous provenez naturellement de ma côte et d'Ève, c'est votre mère. Le passage qui est le plus important pour mon propos, c'est le suivant. Comment l'un peut-il être un vilain et l'autre se parer de l'état de noblesse, vous des frères, d'où peut venir une telle noblesse, je ne le sais, si ce n'est des vertus et les vilains, si ce n'est du vice qui blesse. Vous êtes tous couverts d'une même peau. En réduisant ainsi la noblesse et son contraire, la vilainie, mais le poète n'emploie pas le mot, à des réalités purement et ou strictement morales, Eustache Deschamps s'inscrit en faux contre le principe d'un innéisme social des qualités morales, principe sur lequel l'aristocratie fonde sa supériorité et du même coup sa domination. Nous disions donc, pour revenir à notre propos initial, que dans un petit nombre d'œuvres des XIIe et XIIIe siècles, le personnage principal, un homme ou une femme de très haute condition, est conduit par les circonstances à vivre de son travail et à connaître pour une durée plus ou moins longue et en tout anonymat une vie de vilain. C'est le cas de quatre personnages que nous évoquerons dans l'ordre suivant. Renaud de Montauban d'abord, le héros éponyme d'une chanson de geste connue aussi sous le titre des quatre fils Aymon. Après une vie entière consacrée à lutter contre Charlemagne, le personnage se retire du monde et meurt assassiné sur le chantier de l'église Saint-Pierre de Cologne, où il travaille comme simple manœuvre. Nous parlerons ensuite de Gérard de Roussillon, héros de la chanson du même nom. Merci. Vaincu par le roi Charles Martel, contre qui il s'est rebellé, le comte Gérard est contraint de prendre la fuite, puis s'installe incognito à Aurillac, où pendant 22 ans, il vend du charbon. À ces deux grandes figures épiques, on doit ajouter deux personnages de roman. Guillaume d'Angleterre, héros éponyme d'une œuvre qu'on a parfois, mais à tort, attribuée à Chrétien de Troyes. Guillaume, qui est roi d'Angleterre, est chassé de son trône par un ordre divin et, à la suite d'une série de mésaventures, se voit séparé de son épouse et de ses deux fils, qu'il retrouve à la fin du roman toutefois. Entre-temps, grâce à son labeur et à son habileté, Guillaume est devenu un riche marchand. Et nous terminerons par la jeune Aélis, le personnage principal de L'Escoufle de Jean Renard, un roman du début du XIIIe siècle. Aélis est la fille unique de l'empereur de Rome. Par amour, elle se sauve avec le jeune Guillaume, qui est d'un rang inférieur, mais de malheureuses circonstances sépare les deux amants. Pendant 7 ans, Aélis gagne sa vie grâce à des travaux de broderie, avant de retrouver à la fin du roman celui qu'elle n'avait pas cessé d'aimer et qui, de son côté, s'employait à la rechercher. Rapporté à l'imaginaire social aristocratique reproduit dans les plus anciens textes littéraires français, l'expérience vécue par ces 4 personnages constitue nécessairement, en principe, mais en principe seulement, nous le verrons, une humiliation. Une humiliation plus importante que ne le serait une simple dégringolade à l'intérieur de la classe chevaleresque. C'est le changement de condition qui est en soi dégradant, indépendamment du niveau de richesse, même si la pauvreté et la misère constituent manifestement des éléments aggravants. L'abaissement des grands par la condition de vilain est avant tout, c'est un truisme de le dire, un abaissement social. Mais les enjeux de cet abaissement ne sont pas immédiatement sociaux. Ils sont d'abord moraux et religieux. En cela, cet abaissement permet d'interroger le riche mais complexe rapport entre humiliation et humilité, d'autant plus que, dans 3 des 4 cas recensés, la déshonneur sociale constitue explicitement ou implicitement le châtiment d'une faute. Il s'agit donc d'une pénitence. Volontairement choisie, c'est le cas de Renaud de Montauban, ou imposée, c'est le cas de Gérard de Roussillon et de Guillaume d'Angleterre. Seule la déchéance sociale d'Aélis ne semble pas devoir être rattachée à une telle problématique. Non content de constituer des raretés, ces quelques exemples de châtiment par l'humiliation d'une déchéance sociale vont, pour le plus grand nombre d'entre eux, prendre une forme inattendue. Une forme d'abord qui ne correspond à aucun modèle repérable ou identifiable de pénitence en vigueur dans la société du temps. Une forme ensuite que l'on peut qualifier de paradoxale dans le cas de Gérard de Roussillon et de Guillaume d'Angleterre, personnage pour qui en effet la condition de vilain finira par présenter des aspects matériellement enviables et posséder même une objective dignité, ce qui est a priori fort peu compatible avec le principe du châtiment et de l'humiliation. Ces 2 cas de figure représentent un écart manifeste par rapport à la norme pénitentielle, mais ils constituent aussi, nous le verrons, une sorte de rupture, voire de retournement, par rapport aux idéologies dominantes, aristocratiques et ou cléricales, que la représentation littéraire, épique et romanesque, est censée véhiculer à l'époque concernée. Nous commencerons par le cas le plus facile, que nous traiterons rapidement, celui de Renaud de Montauban, héros d'une chanson de geste conservée dans plusieurs manuscrits, dont le plus ancien remonte au mieux à la première moitié du XIIIe siècle. Après de longues années d'un violent conflit avec Charlemagne, Renaud de Montauban obtient enfin la paix avec son souverain, en échange du sacrifice de son cheval magique, Bayard, et d'un pèlerinage expiatoire à Jérusalem. De retour de Terre Sainte, où il s'est battu victorieusement contre les infidèles, Renaud recouvre ses biens et ses honneurs, et se voit même nommé par Charlemagne sénéchal du royaume. Mais Renaud, après avoir réglé son héritage, préfère se rendre incognito à Cologne pour travailler anonymement sur le chantier de l'église Saint-Pierre, comme simple manœuvre, et sans recevoir d'autres salaires que le pain dont il a besoin pour vivre, ce qui le fait haïr des autres ouvriers qu'il accuse de gâcher le métier et qui, un jour, le tue alors qu'il est en prière. Le corps de Renaud est jeté dans les eaux du Rhin, mais ne s'y enfonce pas, maintenu à la surface par l'action miraculeuse des poissons. Du cadavre émane une vive lumière. Le corps de Renaud est emporté alors à Dortmund, où le personnage est reconnu, puis sanctifié, sa dépouille placée dans une châsse, faisant par la suite de nombreux miracles. Le choix de Renaud est explicitement décrit comme une recherche du salut, celle d'un guerrier acharné et d'un vassal rebelle qui expie une vie de violence dans le pèlerinage d'abord, puis dans la condition d'ouvrier, laquelle peut apparaître comme une forme d'expiation plus radicale que le pèlerinage. Cependant, ce n'est pas le choix volontaire de l'humilité sociale qui permet seul d'accéder à la sainteté, c'est le fait d'avoir participé gratuitement à la construction d'une église, action que l'on jugeait à l'époque comme l'une des plus méritoires qui soit. C'est le refus de recevoir un salaire qui distingue Renaud des autres ouvriers et qui est à l'origine de son meurtre et de sa sanctification. C'est un geste par lequel il s'extrait donc en réalité de la condition commune de ceux qui travaillent, les laboratores, dans la langue des clercs, les vilains, dans celle des nobles. Bref, l'humiliation sociale du personnage, absolument volontaire, est une recherche réfléchie de l'humilité chrétienne dans le cadre d'un projet personnel de pénitence qui ne correspond pas exactement aux deux modèles de perfection conditionnant le plus souvent la sainteté aristocratique, l'érémitisme ou l'entrée au monastère, mais dont les éléments internes construisent un ensemble cohérent, parfaitement conforme à l'idéal moral et spirituel communément véhiculé par le discours clérical du salut, un discours globalement pessimiste sur la condition du laïc, pour qui, en effet, et je cite ici André Vaucher, hein, qui nous a parlé ici même il y a peu de l'humilité chez Saint François d'Assise, condition du laïc, pour qui la recherche du salut passe par le triple refus du pouvoir, du sexe et de l'argent, ce qui est la négation même de son état. L'esprit médiéval, porté aux oppositions contrastées, ne connaît de conversion que totale. C'est seulement par un renoncement absolu que le chrétien peut espérer se rendre agréable à Dieu. C'est bien une conversion totale de cette nature que fait le personnage épique à la fin de la chanson. La forme prise par la déchéance sociale de Girard de Roussillon est plus difficile à interpréter. Je commencerai par rappeler les faits. Comme toutes les chansons appartenant au cycle des barons révoltés, ce qui fait la matière du récit, ce sont les longs et violents conflits entre le héros et son souverain. Girard de Roussillon est un grand seigneur qui, continuellement, conteste par les armes l'autorité de Charles Martel, lequel cherche de son côté, non moins continuellement, à faire plier Girard parce qu'il ne supporte pas, hein, faire plier Girard parce qu'il ne supporte pas cette résistance, hein, et il ne supporte pas la puissance et l'autonomie de ce vassal vis-à-vis duquel il nourrit secrètement une véritable rivalité envieuse. Un jour arrive où, à la suite d'une série de défaites militaires contre son éternel ennemi, Girard doit prendre la fuite et se réfugier, accompagné de Berthe, son épouse, dans l'épaisse forêt des Ardennes. Le couple y fait l'expérience du dénuement et de la solitude. Au cours de leur errance, les deux personnages trouvent momentanément refuge auprès d'un sage ermite qu'ils interrogent sur ce qu'ils doivent faire et qui interprète rapidement la chute et la déchéance de Girard comme un châtiment divin, et plus précisément un châtiment de son orgueil. Commence alors pour le héros une longue période de pénitence, une période de 22 ans, au terme de laquelle Girard retrouve son rang et ses terres, donc sa grandeur et sa puissance originelle. Le problème que soulève cette pénitence, c'est qu'elle finit par s'éloigner résolument du modèle pénitentiel auquel elle semblait pourtant vouloir se rattacher dans un premier temps, puisque le personnage, comme on le verra, connaît très rapidement une certaine prospérité économique. Mais avant de poursuivre sur cette question, il convient de revenir un instant à l'orgueil du personnage. D'une façon générale, l'orgueil, c'est le ressort psychologique principal des différents conflits décrits dans les différentes chansons du cycle des barons révoltés. Ces conflits, déclenchés par des questions de droit ou de justice et entretenus par la logique de l'honneur et de la vengeance, font entrer la société féodale dans un état de crise dangereux, mais qui n'aboutit jamais au chaos. Ces conflits finissent en effet toujours par s'apaiser au profit de la royauté, quand bien même ceux qui incarnent cette royauté, Charlemagne la plupart du temps, sont présentés de façon négative. Comme le rappelle Dominique Boutet dans Charlemagne et Arthur ou le roi imaginaire, quelles que soient les modalités narratives de l'ouverture des crises, c'est toujours l'orgueil, le sens du lignage ou une insuffisante maîtrise de soi qui sont les vrais principes générateurs des conflits. Le roi, le vassal, éventuellement les traîtres, le droit, la justice sont les éléments cristallisateurs et les supports de la crise dans cet univers du politique où se meut normalement la chanson de geste. Mais ils jouent bien entendu un rôle important, mais ils ne constituent pas le vrai sujet de ces œuvres. Le vrai sujet des chansons de révolte, ce sont des conflits de personnes dans lesquels la démesure dans l'exaltation du moi social, du moi politique, ou plus simplement du moi héroïque ou guerrier, occupe une place centrale. L'intérêt particulier de la chanson de Gérard de Roussillon par rapport aux autres chansons du cycle des barons révoltés, c'est qu'elle pose explicitement le problème de l'antinomie entre l'orgueil aristocratique, sorte de vice social débridé par les faiblesses du système féodal, et l'humilité chrétienne, condition du salut personnel. Le récit intègre en effet à la matière épique traditionnelle de nombreux développements directement liés à ce problème. L'épisode de la pénitence du héros par la condition de vilain faisant évidemment partie de cela. Nous verrons cependant que le traitement de l'antithèse traditionnelle, morale et théologique, entre orgueil et humilité sert un projet politique, conforme à l'idéologie royale, véhiculée généralement par la littérature épique médiévale. L'ermite qui apporte son secours à Girard l'interroge d'abord sur ses intentions. La réponse du héros montre un homme plein de haine, obsédé par l'image, par l'idée de se venger et désireux de tuer son ennemi, qui est aussi pourtant son souverain. La réponse de l'ermite est une sévère mise en garde. Alors, comme vous le voyez, le texte en ancien français est passablement compliqué. La langue de Gérard de Roussillon est une langue mixte, un mélange de langue du Nord et de langue d'Oc, et qui conserve aussi des formes latines parfois. Bien. Bons hommes, Orsay qui t'a si confondu, si l'orgueil, que Traubert les cornus, qui juste de ciel en furent abattus, engres furent en celle de grande vertu. Père Orgueil, son diable de Vangut, de là où erre, conce de grande salut, péchats, ta et orgueils si confondut, que ne pouvait s'aramir, mescas, vestut. Anker, majeuit et quenegut, se pose à ver, cheval, lance et escut, qu'aussira ton seigneur en gale feuillut. Pécats et ennemis, ta décobut, en iste volontat, criem que te tut, aidons, t'aura tout quitte concusut. Brave homme, je sais maintenant ce qui t'a perdu. C'est cet orgueil que conçurent les démons et qui les fit chuter du haut du ciel. C'étaient des anges célestes de grande puissance, mais à cause de leur orgueil, ils sont devenus des démons. De là où tu étais, toi, un comte de haute condition, l'orgueil et le péché t'ont fait tomber si bas que tu ne peux rien gager d'autre que ce que tu portes. Tu viens encore de m'avouer de reconnaître, si tu pouvais avoir un cheval, une lance et un écu, que tu tuerais ton seigneur au fond d'un bois feuillu. Le péché et le diable t'égarent. Je crains que celui-ci ne te tue dans cet état d'esprit, car alors il se serait complètement emparé de toi. La nature du péché de Girard suffirait à elle seule à commander la référence à Lucifer et à l'épisode de la chute des anges, puisque cette référence est une sorte de lieu commun de la théologie morale sur l'orgueil, premier péché et premier des péchés. Mais si l'ermite insiste sur l'identité du péché commis par Girard et les anges rebelles, il ne manque pas de souligner la similitude de la situation originelle de l'un et des autres et d'établir un véritable parallèle entre leurs chutes respectives. Ce parallélisme est riche d'un implicite vers la compréhension duquel le lecteur est orienté par l'allusion au désir de meurtre qui anime Girard vis-à-vis du roi Charles, son seigneur. On le sait, Lucifer, suivant le livre d'Isaïe, avait proclamé qu'il monterait dans les cieux, qu'il hausserait son trône au-dessus des étoiles de Dieu, qu'il siégerait sur la montagne de l'Assemblée divine, qu'il monterait au sommet des nuages et qu'il serait comme le Très-Haut. Le texte biblique nourrit une exégèse théologique que les historiennes Carla Casagrande et Silvana Vecchio résument de la façon suivante dans leur histoire des péchés capitaux au Moyen-Âge. Cette exégèse théologique, disent-elles, reconstruit une dynamique précise de la révolte et de la chute de Lucifer. Grisé de son propre pouvoir et supportant mal sa sujétion au Créateur, Lucifer se détourne du bien suprême pour ne penser qu'à son propre bien et aspire à une autosuffisance qui est le renoncement, qui est le commencement de sa ruine. Se détachant de Dieu, la nature angélique se dégrade et le désir d'excellence se traduit en chute et en malheur. Or, il y a quelque chose de proprement luciférien dans le personnage de Gérard de Roussillon. C'est en effet le sentiment de sa propre grandeur et son aspiration à une complète autonomie qui conduit le personnage à revendiquer en alleu, c'est-à-dire en terre libre, sans allégeance, son domaine de Roussillon. Et c'est, si on regarde le texte de près, cette revendication qui est à l'origine du conflit entre les deux protagonistes. Rappelons-le, au début de la chanson, Charles et Girard doivent épouser les deux héritières de l'empereur de Constantinople dans le cadre d'une alliance politique entre les deux nations. Charles doit épouser l'aînée, Berthe, et Girard la cadette, Élisant. Mais Élisant est plus belle que sa sœur, ce qui suscite le désir de Charles et son envie à l'endroit d'un vassal, qu'il juge plus favorisé que lui dans cette alliance matrimoniale. Charles exige d'épouser Élisant, au grand scandale de l'Assemblée des barons, mais Charles persiste dans sa décision. On fait alors pression sur Girard pour qu'il cède Élisant contre Berthe, ce qu'il finit par accepter. Mais en échange, il demande à être relevé de son hommage vis-à-vis de Charles. Charles feint d'accepter cet accord, mais très vite il tente d'en annuler les effets parce que la liberté de Charles, à ses yeux, de Girard, pardon, à ses yeux, en fait son égal, et parce que cette égalité lui est insupportable. Charles est un personnage négatif, certes. L'auteur l'accuse d'orgueil et même d'envie. Mais cet orgueil n'est pas de même nature et n'a pas les mêmes conséquences politiques que celui de Girard. L'orgueil de Charles, c'est celui du souverain qui se sent outragé par l'indépendance d'un vassal, par ailleurs très puissant. Cette blessure d'orgueil possède une légitimité politique. L'orgueil de Girard, c'est celui d'un vassal conscient de son importance et qui revendique une liberté et une autonomie incompatibles avec la monarchie féodale. Un régime politique fortement hiérarchisé, au sommet duquel se trouve le roi, souverain et suzerain de tous. Toute la première partie de la chanson, son noyau le plus ancien, tourne autour de la question de la légitimité de l'affranchissement vassalique du héros. Légitimité qui est contestée à l'intérieur même de son parti, et notamment par son oncle Odilon, mortellement blessé lors de la bataille de Vaubeton, et qui obtient de Girard qu'il entre à nouveau dans l'hommage de Charles, ce qui apparaît aux yeux de tous comme la condition sine qua non du rétablissement de la paix entre les deux protagonistes et de la concorde à l'intérieur du royaume. Odilon fait clairement porter la responsabilité de la guerre sur son neveu. Post deus fumes en crotz, compres martyr, ne fumes per un homme tangreux concire, ne tant dolens journaus per gent de vir. As en major pechat, que non sei dire, ne comme ne peut cantar, ne clairs escrire. Ce ne puas. Tu néar ne escondir, ne siès ses hommes lige, et elle t'essire. Ne puis cachar de champ, de camp, ne desconfire, que n'as forfait ton feu, qu'in voudrait dire. Depuis que Dieu fut mis en croix, quand il reçut le martyr, jamais un homme ne provoqua de chagrin si vif, ni de journée si douloureuse en faisant s'affronter des armées. C'est une référence là aux nombreuses batailles qui ont eu déjà lieu, bataille terrible et dévastatrice. Ton péché est plus grand que je ne saurais le dire, plus grand qu'un homme puisse le raconter ou un clerc l'écrire. Tu ne le peux le nier, ni t'en défendre. Tu es son homme lige, et lui, ton seigneur. Tu ne le peux chasser du champ de bataille, ni le vaincre, sans forfaire ton fief. Voilà le droit. Bon. Dans l'esprit du personnage, une chose est véritablement acquise, hein, c'est que Girard ne saurait être autre chose que le vassal du roi. De telles mises en cause permettent une interprétation rétrospective de la prétention, puis de la revendication de Girard d'être libre d'hommage vis-à-vis de Charles. Ce sont des signes de démesure par rapport à un ordre politique dans lequel le roi est nécessairement le seigneur de tous les membres de l'aristocratie féodale. Un ordre dont Girard a prétendu pouvoir s'affranchir, illusoirement, parce que cet ordre ne saurait être remis en cause, et surtout tragiquement, parce que cet affrontement, cet affranchissement a précipité la collectivité entière dans la violence et la destruction, avant de précipiter Girard lui-même dans le malheur de la défaite, de la fuite et de la déchéance sociale. L'accusation d'orgueil portée par l'ermite prend donc tout son sens à être mise en perspective avec les diverses scènes de conseil ou de négociation au cours desquelles les prétentions d'autonomie de Girard par rapport à la puissance royale sont discutées et finalement condamnées. Parce qu'elle est un châtiment divin, la chute de Girard est celle d'un grand seigneur qui, grisé par sa puissance et sa grandeur, a prétendu s'affranchir d'un ordre social et politique qui apparaît du même coup comme celui-là même qui est voulu par Dieu. La référence à Lucifer et aux anges déchus va bien au-delà du lieu commun de l'orgueil coupable et de ses implications morales et religieuses. Elle constitue une sorte d'interprétation théologique de ce qui n'était jusqu'alors qu'une question politique et sociale, traitée dans des cadres laïques et féodaux. Et cette interprétation théologique va dans le sens d'une sacralisation de la royauté, ou plus précisément d'une sacralisation de la monarchie féodale, fondée sur la souveraineté du souverain. Elle est en cela proprement idéologique. Le discours de l'orgueil et de son contraire, l'humilité, sert donc, dans la chanson de Gérard de Roussillon, une idéologie politique, royale. On le voit encore dans la dernière partie de l'œuvre, quand Gérard, qui a retrouvé ses biens et sa puissance, doit faire face à une nouvelle attaque de la part du roi Charles. Le comte de Roussillon a convoqué tous ses vassaux qui ont installé leur campement au pied de la cité de leur seigneur. Gérard, de la fenêtre de la grande salle de son château, contemple un spectacle qui le réjouit. Le texte est long, mais il est d'une telle qualité littéraire. Licantes ses gardes avales, où sont les prates, et vitant pavillon tendu et trate, et tant franc chevalère là et bergate, et d'armes reluisantes, mol grande calartate, et gunfanun unduet, li despleyat. Lui, vaus de Roussillon, li loins, elle late, tant chevalère y est veu armate qui sont morts et finites. Et les filnat, Jans Vaus, comme lui vous voyez en luminat, à autres trésors ne prie Saint Michelat, Deus. Pour quel volerie somme altar privat, des bergards en son corps et carsetat. Car per virgogne et prête ses cobéitat, bien à corse recredente de malvestat qui se part per son gratte de tal bernat. J'ai tel envite. M'en partirai, puis les cobrettes, à un petit nement, false coronate, tot en folle convertite et prédicate. Le comte regarde en bas, là où sont les prés, il voit tant de pavillons de montés et dressés, tant de nobles chevaliers qui y sont hébergés, et la très grande clarté des armes qui brillent. Les enseignes déployées flottent au vent. Ah, vallée du Roussillon, si longue et si large, j'y ai vu tant de chevaliers en armes qui maintenant sont morts. Mais ils ont eu des fils. Noble valet, je te vois aujourd'hui resplendir de lumière. Tout autre trésor pour moi ne vaut pas un sou. Mon Dieu, pourquoi un homme puissant voudrait-il vivre à l'écart et héberger l'avarice en son cœur? Il agit par vilenie, condescendance et cupidité, et il a le cœur plein de lâcheté et de mauvaiseté. Celui qui sent ce qui se sépare de son propre gré de tel baron. Je m'en séparerai à contre-cœur, maintenant que je les ai retrouvés, pour un peu, ces fourbes de tonsuret m'auraient converti en imbécile avec toute leur prédication. On le voit, le spectacle de sa propre grandeur et de sa propre puissance procure à Gérard une intense satisfaction narcissique. Ce spectacle produit en lui une profonde jubilation intérieure, en rapport avec la conscience que le personnage a de sa position sociale et de son importance politique. Le texte met en scène un homme en proie à cette exaltation que produit le sentiment de sa propre excellence et en quoi consiste justement et très exactement l'orgueil selon la théologie morale. Le sentiment exaltant de sa propre excellence déclenche un processus psychologique qui conduit le personnage d'une part à résister, une fois de plus, à l'autorité royale et d'autre part à rejeter la prédication des moines et le modèle d'humilité qu'il représente, comme le montrent les paroles de Gérard à son fils aîné, auquel il s'adresse dans la laisse qui suit immédiatement le prologue que l'on vient de commenter. Jamais tu ne seras dépossédé de tes biens. Celui qui devient moine, il est bien mauvais, et qui mange de vente, molte et malvat. J'ai aimé les chevaliers et je les aime encore. J'agirai, tant que je vivrai, selon leur volonté. Et je leur ferai des dons avec plaisir, car j'ai de quoi. Trop me suis longement humiliat. Je me suis humilié trop longtemps. Mon ennemi ne m'entendra pas le supplier. Je vais écraser ces maudits outrecuidants. Eins confundreit glutons ultraquidanst. À ce moment-là du récit, Gérard est en train de retourner à ses vieux démons. Le sentiment de puissance et l'amour de la condition chevaleresque poussent le personnage à rejeter une morale de l'humilité qui lui apparaît profondément incompatible avec sa condition de grand seigneur, une condition qu'il entend assumer pleinement et qui lui dicte de résister à l'autorité royale. Au terme de ce mouvement de révolte, il projette son propre orgueil sur ses ennemis, dont il prétend abattre la superbe. On peut souligner ici l'intérêt historique de l'œuvre littéraire pour la connaissance des mentalités aristocratiques à l'époque concernée. Il y a bien sûr, et bien évidemment, antinomie entre l'orgueil social des nobles et l'humilité chrétienne prêchée par l'Église. Mais le texte épique suggère que le problème réside moins dans cette antinomie que dans l'insuffisante intériorisation, chez un grand seigneur comme Girard, du discours clérical de l'humilité. Ce discours est finalement resté étranger à l'habitus aristocratique du personnage, d'un personnage qui a incorporé, depuis son enfance, le système de valeurs de sa classe, un système de valeurs auquel il adhère par toutes les fibres de son être et qui commande non seulement sa compréhension du monde, mais son action même sur le monde. L'humilité chrétienne n'est pas devenue un habitus chez Girard. Il faudra finalement que Girard soit le témoin oculaire d'un miracle suscité par la piété et l'humilité de son épouse Berthe, qui travaille la nuit incognito sur le chantier de l'église Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, pour que le personnage entame enfin une véritable conversion, conversion qui le conduira, comme d'autres héros épiques, au moniage, c'est-à-dire à se faire moine. Reste la question, laissée en suspens, du châtiment de Girard par la condition de vilain. Le héros et son épouse vivent d'abord dans le plus grand dénuement. Ils errent de lieu en lieu et subsistent de la charité ou de l'hospitalité, pas toujours bienveillante d'ailleurs, de ceux qu'ils rencontrent dans leur pérégrination. Le texte insiste sur la faiblesse physique de Girard, son amaigrissement, les tourments de la soif et de la faim, et surtout sur sa détresse morale. Une détresse morale qui aurait pu se corrompre en désespoir sans les consolations et les encouragements de Berthe, qui rappelle à son mari que sa pénitence consiste justement à connaître l'épreuve de la souffrance et du malheur. Cet état de dénuement extrême est cependant de courte durée. Très vite, en effet, Girard s'associe avec deux charbonniers et, installé avec Berthe à Aurillac, Girard travaille et passe pour un charbonnier, certes. Mais à regarder le texte de plus près, on s'aperçoit qu'il ne produit pas lui-même le charbon, mais qu'il le vend en faisant de bons profits. Alors, j'ai reproduit ces deux vers qui passent souvent inaperçus. Mais « Ligains del carbon van per talent », littéralement le profit du charbon vient à volonté. S'ils le font, cela renvoie aux deux charbonniers, il le porte et le vend. Lui, le transporte et le vend. Bien. Girard est donc vendeur de charbon à Aurillac. Voilà. Pendant ce temps-là, Berthe est, quant à elle, devenue couturière. Une couturière habile, ce qui lui vaut d'avoir de nombreuses et riches clientes. Du coup, le couple est installé dans une maison du bourg d'Aurillac, qu'ils louent à une veuve, qu'ils emploient comme servante et chambrière. Bref, les deux personnages vivent dans une évidente prospérité bourgeoise, et cela pendant 22 ans. On le voit, la pénitence de Girard s'éloigne résolument des formes habituelles ou attendues du châtiment divin ou de la malédiction divine. Or, cela me servira de transition, nous trouvons un cas de figure similaire dans Guillaume d'Angleterre. Alors, Guillaume d'Angleterre est un roman passablement compliqué. Je suis contraint un peu de rappeler les faits et les événements. Le personnage principal, Guillaume, roi d'Angleterre, vit heureux et prospère jusqu'au moment où Dieu, par le biais de trois étranges apparitions nocturnes, lui commande de quitter sa demeure et d'abandonner tous ses biens. Sans avertir personne et après avoir écouté les recommandations de son chapelain, Guillaume se sauve nuitamment de son palais, accompagné de son épouse enceinte, de leur premier enfant et tout près d'accoucher. Il se cache d'abord dans une forêt où il mène une vie sauvage et solitaire. Gratienne, dans une grotte, accouche en réalité de deux garçons, assistés de son seul mari. Parti chercher de l'aide, du secours même, Guillaume revient avec une troupe de marchands qui, frappés par la beauté de Gratienne, l'enlèvent. Puis s'embarquent dans leur navire, laissant Guillaume seul, avec les deux enfants. Premier malheur. Ayant repéré un autre bateau de commerce, le personnage, qui veut fuir l'Angleterre, décide de s'y embarquer. Il y dépose un de ses deux fils, après avoir laissé l'autre un instant sur la grève près d'un rocher. Mais voilà, un loup passe par là, qui emporte l'enfant. Guillaume le prend en chasse, en vain. Dans sa fuite, l'animal tombe sur une deuxième troupe de marchands et leur abandonne sa proie. Ces derniers retournent ensuite à leur navire, celui-là même où Guillaume avait déposé le premier garçon. Chacun des deux enfants trouvé est immédiatement confié à un père adoptif, choisi par les marchands présents. On lève bientôt l'ancre. Voilà donc Guillaume, désormais tout seul, qui erre sans but et qui croise la route d'une troisième troupe de marchands qui acceptent de le prendre avec eux sur leur navire. Ayant donc absolument tout perdu, trône, biens, femme et enfant, Guillaume s'éloigne de l'Angleterre. On a affaire à un roi sans royaume réduit à la mendicité. La famille dispersée sera réunie à la fin du roman après une bonne vingtaine d'années de séparation. Entre-temps, les deux garçons sont devenus de redoutables chevaliers. Gratienne est devenue la reine du petit royaume de Sorlin, après en avoir épousé le souverain, un vieillard, qui meurt avant d'avoir pu connaître charnellement son épouse. Quant à Guillaume, il entre au service d'un bourgeois de la ville de Galloway. D'abord chargé des basses besognes, il devient l'intendant de la maison et fait même prospérer les affaires de son maître. Celui-ci, pour le remercier, favorise alors son installation. Guillaume devient alors, en peu de temps, un riche marchand. C'est à l'occasion d'un de ses longs voyages commerciaux qu'il retrouve Gratienne, puis ses fils. La famille dispersée, une fois reconstituée, tout le monde retourne en Angleterre, où Guillaume retrouve son trône sans rencontrer la moindre difficulté. Voilà. Alors cette histoire, pour le moins, rocambolesque, conservée dans deux manuscrits seulement, tient autant du conte chrétien que du récit profane, sans correspondre pleinement aux attentes relatives à l'un ou à l'autre de ces deux types de textes. Cette ambiguïté de statut est d'ailleurs attestée par la double réception de l'ouvrage au Moyen-Âge même, le Guillaume d'Angleterre étant en effet rangé dans un des manuscrits parmi une série de poèmes pieux et dans l'autre manuscrit au milieu d'un ensemble de romans. Cette indécision générique fait pour beaucoup dans l'impression que l'on peut éprouver d'être devant une œuvre à la signification incertaine, mouvante et insaisissable, mais elle ne l'explique pas à elle seule. Parmi les nombreuses difficultés soulevées par le texte, il y en a deux qui ont particulièrement retenu l'attention de la critique. La première difficulté concerne le décret divin, dont le texte ne précise pas explicitement la raison et qui peut en cela apparaître immotivé et donc arbitraire. Arbitraire qui semble dès lors justifier un rapprochement du personnage de Guillaume avec celui de Job, qui en serait le modèle scripturaire. La deuxième difficulté concerne le dénouement, la situation finale du héros et des siens étant exactement celle où ils se seraient logiquement ou normalement trouvés à ce moment-là de leur vie si Dieu n'avait pas ordonné à Guillaume d'abandonner sa maison, ses biens et son trône. L'ordre divin a certes profondément modifié la vie des membres de la famille royale d'Angleterre, mais temporairement. Il n'a pas engagé les personnages dans un destin définitivement autre que celui commandé par leurs conditions sociales premières. C'est donc avec raison qu'on a pu s'interroger sur le sens de la dépense représentée par un récit qui aboutit finalement à la restauration pour les protagonistes de ce qui était leur état originel. Mais résoudre la première difficulté revient à résoudre la deuxième. Et cette première difficulté tient au fait que le roman commence par donner du héros une image particulièrement positive, ce qui rend problématique l'ordre divin d'exil. C'est un homme pieux, plein de charité et d'humilité, aimant Dieu, honorant l'Église et ponctuel aux offices religieux. Guillaume est de surcroît un bon roi et un bon mari. Son épouse, Gratienne, possède les mêmes belles qualités morales que lui. Les deux personnages sont présentés comme des personnes de bien, dont l'heureuse quiétude paraît proportionnelle à leur piété et à leur bonté. Cette perfection affichée du couple royal fait que l'ordre divin d'exil et les malheurs qui s'en suivent, dissociés de toute faute perceptible ou de toute tare morale manifeste, semblent devoir être interprétés comme une mise à l'épreuve élective, sur le modèle de ce qui arrive par exemple à Saint-Eustache, dont la légende présente, en raison de leur origine commune, de nombreuses similitudes avec l'histoire de Guillaume d'Angleterre. La suite du récit montre cependant que la moralité du personnage est en réalité loin d'être aussi parfaite ou aussi exemplaire que ne le laisse entendre son portrait initial. On apprend en effet de la bouche du chapelain de Guillaume que celui-ci a fait main basse sur des biens qui ne lui appartenaient pas. Mais je sais bien que vous avez maintes choses où vous n'avez droit. Faites crier tout au rendroit, ce n'use vous sait que demander. Que presse y est de l'amender? C'est mesconsaus, il n'y a-t-il. Ne retenez autrui châtel, mais acquittez-vous bien partout. Bon. Donc, le chapelain donne le conseil à son interlocuteur de ne pas conserver les biens d'autrui qu'il possède indûment et qu'il se mette en règle. La critique n'a pas manqué de signaler ce que cette révélation du chapelain avait de contradictoire avec les qualités chrétiennes d'abord prêtées à Guillaume, mais sans toujours lui accorder l'attention qu'elle méritait et en la traitant même parfois comme quantité négligeable. Pourtant, en reliant ainsi l'apparition nocturne à des méfaits précédemment commis par Guillaume, le chapelain interprète spontanément l'ordre d'exil comme un châtiment infligé par Dieu. Et on voit comment son interprétation, et on voit mal comment son interprétation aurait pu ne pas commander celle du public médiéval de l'œuvre, parfaitement habitué par sa culture chrétienne à interpréter les destinées humaines en fonction d'une volonté divine qui rétribue les bienfaits et qui châtie les fautes. Quant à la nature du crime commis par Guillaume, elle se déduit naturellement de la nature du geste expiatoire recommandé par le chapelain. Il s'agit de vol. La règle canonique faisant en effet de la restitution intégrale des biens illégalement acquis la condition nécessaire à la rémission de ce péché. Et la restitutio in integrum atteste par ailleurs de l'authenticité du repentir du pécheur. La mention de biens mal acquis ou détenus de façon illégitime range Guillaume parmi ces souverains dont l'avidité était signalée et déplorée par la littérature cléricale de l'époque. Avidité que leur puissance leur permettait de satisfaire, soit par la voie violente du vol ou du pillage, soit par la voie plus détournée mais tout aussi condamnable de confiscation faussement légale ou de prélèvement indu ou excessif. Pour Jean de Salisbury, par exemple, l'auteur du Polycraticus, un des penseurs politiques les plus importants du XIIe siècle, s'il n'y a pas lieu de condamner la richesse des puissants, laquelle n'est pas un mal en soi, leur ex cupidus est en revanche profondément blâmable, parce que son amour des richesses le pousse non seulement à amasser des trésors pour lui-même, mais aussi à s'emparer par la rapine des biens d'autrui. Celui-là trouve l'abondance dans la misère de ses sujets et construit son bonheur sur la ruine de la multitude. Il serait hasardeux de tirer des conclusions sur le degré d'avidité de Guillaume à partir des seuls propos du chapelain cités plus haut. Mais ils sont suffisants pour reconnaître dans le personnage un souverain dont les diverses qualités chrétiennes sont profondément altérées par une cupidité qui n'a pas besoin d'être nommée. Elle se déduit des données immédiatement reconnaissables pour les gens de l'époque, public profondément imprégné en effet du discours de l'Église, sur un vice dont les prédicateurs des XIIe et XIIIe siècles condamnaient régulièrement les diverses manifestations. Guillaume d'Angleterre est donc gravement coupable de cupidité, comme Gérard de Roussillon est gravement coupable d'orgueil. Leur exil et leur déchéance sociale sont des châtiments divins, dont la dureté est bien réelle, mais passagère. Là est tout le problème. Dans un premier temps, ces châtiments correspondent à des formes de marginalité sociale ou à des modalités d'existence tout à fait conformes à un modèle chrétien de pénitence qui, c'est important, est lui-même calqué sur un idéal exigeant, celui de la pauvreté volontaire, forme élevée de l'imitation du Christ. C'est la raison pour laquelle, sans doute, la pénitence d'une faute grave peut déboucher avec le temps sur la sainteté si cette pauvreté volontaire s'accompagne d'une conversion complète. Nombreux, en effet, sont les saints médiévaux, d'origine aristocratique, dont la vie a été une vie de pécheur endurci avant une pénitence imposée ou une conversion volontaire. On peut ainsi citer l'exemple de Ponce de Leyras, près de l'Odève, qui est le fondateur de l'abbaye de Sylvanès, que nous avons retenu parce que son histoire possède des points communs, dans un premier temps en tout cas, avec celle de Guillaume d'Angleterre. Ponce de Leyras est un riche seigneur, maître d'un château près de l'Odège, je le disais, qui profite de sa situation pour se livrer à des pillages. C'est le type même du chevalier prédateur, prompt à revendiquer par la force des terres qui ne lui appartiennent pas et à s'emparer par la rapine des maigres biens des faibles, paysans et villageois qui lui sont soumis. Le type de noble, donc, que l'Église condamne et dont elle tente de discipliner la violence en lui imposant la paix de Dieu, et en lui proposant justement un modèle d'accomplissement supérieur dans la conversion et même dans la sainteté. Je pense ici au livre de Dominique Barthélémy qui s'est penché sur la question, un livre intitulé « Chevaliers et miracles, la violence et le sacré dans la société féodale ». Un jour, nous sommes aux environs de 1130, Ponce de Leyras, touché par Dieu, se repent de ses fautes, décide de faire pénitence et renonce à sa condition de chevalier et de seigneur. Le personnage ne choisit pas le moniage, mais ce qui en est un équivalent et ce qui représente en même temps une alternative à ce moniage, c'est-à-dire la pénitence dans le monde. Premièrement, il se dépouille de ses biens. Il vend sa seigneurie et ses terres en échange d'argent et d'animaux domestiques, chevaux, vaches, mulets, etc. Deuxièmement, il se sépare des siens, séparation de la famille. Sa femme et sa fille entrent au couvent et son fils, richement doté, est donné en oblat à l'abbaye de Saint-Sauveur de Lodève. Troisièmement, il fait pénitence publique. À Lodève, le dimanche des Rameaux, il traverse la ville en chemise, pieds nus, la corde au cou et se fait fustiger sur la grande place. Après quoi, quatrièmement, il offre réparation à ceux qu'il a spoliés. Il les dédommage en argent ou en leur donnant les bêtes qu'il a achetées. Ce qui reste, il le distribue aux pauvres. Entouré de quelques compagnons, Ponce de Leyras fait le pèlerinage de Saint-Jacques, poursuit ses pérégrinations, vit de mendicité ou du travail de ses mains, puis s'installe enfin à Sylvanès où il fonde une abbaye. En leur début, les pénitences dans le siècle de Girard et de Guillaume réactualisent manifestement des modèles hagiographiques. Le dénuement extrême des personnages, les souffrances qu'ils éprouvent, les humiliations qu'on leur fait parfois subir, tous ces éléments orientent les deux récits vers des dénouements autres que ceux qu'ils proposent soudain au lecteur. Tout se passe comme si les auteurs s'étaient employés à créer une attente qu'ils s'ingéniaient ensuite à tromper. Ce qui rend plus saisissant encore et plus incongru l'intégration sociale des personnages, la relative prospérité de Girard d'un côté et l'exceptionnel enrichissement de Guillaume de l'autre. Il va de là que se trouve là l'écart le plus manifeste ou le plus évident avec la norme pénitentielle médiévale. Une comparaison avec la pratique historique en fait cependant apparaître une autre, moins visible, mais qui a sans doute son importance. Nous voulons parler de l'absence d'humiliation publique, question dont Mme Clos-Gauvard a parlé ici même. D'une façon générale, la pénitence dans le siècle, en cas de faute grave, inclut l'humiliation publique, et parfois se réduit à cette seule humiliation publique. L'humiliation publique est un rituel, un spectacle de la honte consentie, de la contrition exemplaire. C'est un spectacle qui peut avoir une dimension cathartique. L'humiliation publique de Ponce de Leyras, selon son hagiographe, provoque en effet une émotion collective, un attendrissement général. Tout le monde pleure et des spectateurs en viennent à faire spontanément l'aveu de leur propre faute. Dans nos deux textes, cette pénitence dans le siècle est imposée au personnage par lui-même, par Dieu lui-même, pardon. Le châtiment est direct. Il ne relève ni de la justice, ni de la volonté des hommes. C'est une affaire que l'on aurait envie de qualifier de strictement privée entre Dieu et les deux coupables. La destinée de Girard et de Guillaume est tout entière dépendante de Dieu, qui les châtie, mais qui aussi les rétablit quand ils le souhaitent, dans leur condition originelle, c'est-à-dire quand ils jugent la pénitence suffisante ou satisfaisante. La dureté de la pénitence de nos deux personnages, dans laquelle ils entraînent les leurs, selon le principe d'une solidarité familiale qui illustre aussi le cas historique de Ponce de Leyras, réside surtout, finalement, dans sa longueur. Pour le reste, Dieu est loin d'exiger des pénitents des conditions d'existence qui correspondraient à une sorte de monachisation dans le siècle. Pour plaire à Dieu, il n'est pas besoin de vivre à l'écart des hommes, dans une pauvreté volontaire ou imposée qui peut se rapprocher parfois du dénuement le plus complet. Il n'est pas besoin de renoncer aux biens matériels, renoncement qui est la condition de la perfection chrétienne, selon les paroles même du Christ qui, dans Matthieu, répond à qui l'interroge sur ce sujet, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor aux cieux, puis viens, suis-moi. » Non. Pour plaire à Dieu, il suffit à Girard et à Guillaume d'accepter sans révolte une condition inférieure à celle qui était la leur, de l'accepter et de s'y épanouir. L'humilité sociale de Girard et de Berthe est relative. Elle ne s'accompagne pas non plus d'humiliation. Il faut croire le couple heureux dans la condition que Dieu lui a imposée. Mais c'est évidemment l'expiation de Guillaume sous la forme d'une exceptionnelle ascension sociale qui constitue l'audace la plus grande. Tout le paradoxe est là. La pénitence d'un grand par la condition de vilain équivaut finalement à une réhabilitation de cette condition et même à une promotion de cette condition. Il va de soi que, ce faisant, les deux textes prennent résolument le contre-pied des préjugés de l'aristocratie vis-à-vis d'un groupe qu'elle méprise, et qu'elle prend également le contre-pied du discours dominant à l'intérieur de l'Église et dans le monde clérical sur la condition de laïc, et plus particulièrement sur celle des laboratores, parmi lesquels les marchands sont justement ceux qui, en principe, sont le moins susceptibles de plaire à Dieu. Guillaume d'Anclotaire fait la démonstration inverse. Du coup, c'est la question de l'idéologie sociale du texte littéraire que pose la forme prise par la pénitence de Girard et de Guillaume. On le sait, Avec l'apparition et l'essor de la littérature en langue vulgaire, l'aristocratie, grâce au concours d'une clergie attachée à son service, accède à un mode d'expression, l'écrit, jusqu'ici réservé à l'Église, et grâce auquel elle peut construire une image d'elle-même, conforme à la conscience qu'elle a de sa propre identité sociale, dans le sens d'une légitimation de sa position dominante au sein de la société globale. L'autonomisation culturelle de l'aristocratie est sous-tendue, comme l'ont fait remarquer un certain nombre d'historiens, par une rivalité implicite avec l'Église. Ainsi donc, selon Anita Guéraud-Jalabert, par exemple, parmi les dominants laïcs, dont le pouvoir se structure sur une base locale et dont les moyens se sont accrus, la volonté d'inscrire sur le parchemin une partie de leur production culturelle correspond à une forme de légitimation de ces productions et d'affirmation d'un statut social dominant, en concurrence avec l'Église, concurrence perceptible, par ailleurs, à propos du contrôle des terres et de l'encadrement des hommes. Cette concurrence ne signifie pas pour autant conflit ouvert, bien au contraire. S'interrogeant sur la fonction sociale d'une hagiographie médiévale qui accorde aux chevaliers convertis une place considérable, Dominique Barthélémy montre qu'il s'agit de récits qui ménagent les intérêts partagés de deux groupes dominants justifiés dans leurs prérogatives respectives. L'historien Michel Lauvert tire une conclusion similaire des diverses études qu'il a réunies dans « Guerriers et moines, conversion et sainteté aristocratique » dans l'Occident médiéval. Les vies de seigneurs vénérables et saints définissent, écrit-il, les formes légitimes de la domination et de la hiérarchie dans la société seigneuriale, ainsi que les rapports et les équilibres entre les deux versants de la classe dominante, Église et aristocratie laïque. Fin de citation. Il en est de même, selon nous, de la première littérature en langue française. Même si l'accent est mis sur ce qu'Anita Guéraud-Jalabert appelle une autodéfinition et une auto-légitimation de l'aristocratie comme classe dominante, productrice d'une culture spécifique. Le groupe qui fait bien évidemment les frais de l'opération, c'est celui des laboratores ou des vilains, comme le montre exemplairement le prologue du roman de Thèbes. Le roman de Thèbes, c'est notre premier roman en langue française. Il s'agit d'une libre traduction-adaptation de la Thébaïde de Stas vers 1150. Dans ce prologue, l'auteur réserve explicitement son récit aux clercs et aux chevaliers, excluant ainsi de son auditoire des vilains, dit-il, aussi incapables d'écouter son œuvre qu'un âne de jouer de la harpe. Le roman de Thèbes, à travers son prologue, inaugure une longue lignée d'œuvres marquées par une véritable complicité idéologique entre deux groupes dont la rivalité s'abolit dans une connivence dommageable au groupe exclu, complémentaire des deux autres par sa fonction, mais surtout inférieur à eux, selon la théorie des trois ordres. Le bonheur paisible de Girard sous l'habit de vendeur de charbon et l'expiation sous forme d'ascension sociale de Guillaume sont les signes manifestes d'un affranchissement des auteurs de nos deux œuvres par rapport à l'idéologie sociale véhiculée généralement par la littérature contemporaine. Une voix se manifeste qui n'est ni celle du mépris aristocratique, ni celle du pessimisme clérical, et qui laisse entendre qu'il n'y a rien d'humiliant dans une condition qui est susceptible d'apporter une forme satisfaisante, honnête et morale de bonheur terrestre, et qui surtout, parce qu'elle est conforme à la volonté divine, ne constitue en rien un obstacle au salut personnel. Il est possible de s'épanouir dignement dans un ordre dont la subordination politique au pouvoir aristocratique et spirituel à l'autorité de l'Église n'est pas pour autant remise en cause. Mais cette subordination n'est nullement présentée comme une humiliation ou comme une malédiction en soi. Il est finalement honorable de vivre de son travail et légitime d'aspirer, par ce travail, à la prospérité et au bien-être matériel. Une telle affirmation représente un véritable coup de force par rapport aux deux discours dominants, aristocratique et clérical, que la littérature épique et romanesque est censée reproduire. Pour finir, j'évoquerai très rapidement Les Scoufles de Jean Renard. Il s'agit d'un roman composé de deux parties inégales. La première, la plus courte, a pour personnage principal Richard de Montivilliers, qui est en même temps comte de Normandie. On se demande par quel miracle, puisque Montivilliers est un tout petit village. C'est un parangon de prouesse et de largesse. De retour d'un pèlerinage en Terre Sainte, Richard s'arrête à Rome, où il est reçu par l'empereur. Il en devient l'ami, puis le premier ministre. Son fils Guillaume grandit auprès d'Aélis, la seule fille de l'empereur de Rome. Les deux enfants s'aiment, et leurs pères sont d'accord pour les marier quand le moment sera venu. Mais le comte Richard meurt subitement. Des voix s'élèvent alors pour empêcher le mariage projeté, qui serait une mésalliance pour la famille impériale romaine. Guillaume et Aélise décident alors de s'enfuir afin de rejoindre la Normandie, où Guillaume est attendu comme successeur de son père. Commence alors la deuxième partie du roman, consacrée aux aventures, ou plutôt mésaventures, des deux jeunes gens, que les circonstances séparent rapidement. Un jour, sur la route, à l'occasion d'une halte champêtre, Aélise fait don à Guillaume, en gage d'amour, d'une aumônière de velours rouge dans laquelle se trouve un anneau que sa mère lui a offert. La jeune fille s'endort. Mais Guillaume, qui surveille son sommeil, ne peut empêcher un escoufle, un milan, voilà l'animal qui donne son nom au roman, de s'emparer de l'aumônière qu'il a pris pour un morceau de viande. Guillaume prend en chasse l'animal et s'éloigne donc considérablement d'Aélise qui, quand elle se réveille, se retrouve seule. Désespérée d'avoir été abandonnée, croit-elle, la jeune fille n'en décide pas moins de rejoindre Guillaume et prend la décision de se rendre en Normandie. Après avoir récupéré l'aumônière, Guillaume revient sur ses pas et ne trouve pas Aélise, qu'il pense avoir été rattrapée par les hommes de l'empereur. Il prend donc la direction de Rome. Les deux amants avaient peu de chances de se rencontrer et effectivement, pendant plusieurs années, ils se cherchent l'un l'autre. Rapidement sans argent, Guillaume se met au service de différents maîtres, dont un bourgeois de Saint-Gilles qui tient un hôtel pour pèlerins. On voit alors Guillaume travailler dur et mettre de l'argent de côté afin de pouvoir reprendre sa quête d'Aélise. De son côté, la jeune fille, lasse de ses pérégrinations infructueuses, s'installe à Montpellier, où elle ouvre un atelier de broderie, tirant ainsi profit d'un art qu'on lui avait enseigné dans son enfance. Comme Berthe, Aélise est une ouvrière habile, mais son succès est bien plus considérable que celui de Berthe. Ses ouvrages sont très vite appréciés, par une riche clientèle bourgeoise d'abord, aristocratique ensuite. Sa compagnie est recherchée, et sa maison devient un lieu à la mode, où l'on se divertit élégamment, et où se croisent, dit le texte, chevaliers et bourgeois. Les succès mondains d'Aélise sont tels que la comtesse de Montpellier finit même par en prendre ombrage. Bien entendu, après 7 ans de séparation, les deux personnages finissent par se retrouver, tout est bien, qui finit bien, évidemment. Alors, Jean Renard semble donc proposer avec l'escoufle un récit courtois de la plus belle eau. On évolue dans un univers aristocratique, les héros sont de haute condition, animés par une passion sincère et des sentiments élevés. La première partie du récit, centrée sur la personne du comte Richard, semble même vouloir donner une synthèse, sous une forme au demeurant hyperbolique, des lieux communs qui marquent la production romanesque de la deuxième moitié du XIIe siècle, que l'on qualifie en effet de courtoise. Chevalier d'exception, seigneur de grande largesse, Richard est aimé de ses vassaux et de ses sujets. Une fois à Rome, il participe au rétablissement de l'autorité de l'empereur et l'aide à exercer un bon gouvernement en chassant les hommes de basse naissance, des vilains, à qui ce dernier avait imprudemment confié des charges. Jean Renard reprend, c'est très net, tous ces lieux communs avec ces lieux communs du roman courtois avec gourmandise. Mais il le fait en introduisant à leur endroit une véritable distance ironique, voire critique. Son art est un art subtil qui consiste à jouer le jeu du récit courtois en termes d'aventure, comme on le voit dans l'escoufle, mais tout en dévoilant les faux-semblants de l'idéal nobiliaire complaisamment reproduit par la littérature que l'on dit courtoise. La nécessité dans laquelle Jean Renard met ses personnages de devoir gagner leur vie en travaillant constitue en effet un contrepoint réaliste à l'imaginaire de richesse et de largesse qu'entretient communément la littérature courtoise. Contrepoint qui va dans le sens d'une déconstruction de cet imaginaire. Dans ce récit tout orienté vers les retrouvailles des deux héros, c'est en effet le travail, l'épargne, le commerce qui permettent à Alice et à Guillaume non seulement de survivre, mais surtout de prolonger leur condition d'amant et de poursuivre leur quête de l'autre. Il n'y a rien d'humiliant ou de déshonorant dans la déchéance sociale de personnages qui font le choix volontaire de ne pas retourner à leur condition aristocratique originelle. Une fois contraints par amour à vivre de leur travail, Guillaume et Aélise manifestent un réalisme social et une lucidité économique qui sont, tout simplement, ceux de la société contemporaine. C'est très manifestement le cas d'Aélise qui, en transformant en activité artisanale ce qui n'était à l'origine qu'un talent mondain de jeune aristocrate naïf, s'enrichit suffisamment pour vivre sur un pied, qui est celui des maisons nobles urbanisées ou des grandes familles bourgeoises aspirant au patriciat. Bien sûr, la réussite sociale d'Aélis n'est pas vraisemblable. Mais le schéma qui la sous-tend est en revanche tout à fait réaliste. Cette réussite sociale est un écho littéraire des bouleversements économiques et sociaux du XIIe siècle, bouleversements qui marquent l'avènement d'une classe nouvelle qui, par l'industrie et le commerce, en vient, dans les villes, à contester l'hégémonie politique et la supériorité sociale de l'aristocratie. Le pragmatisme économique des héros, et plus particulièrement le succès social de l'héroïne, mettent en porte-à-faux l'idéologie aristocratique généralement véhiculée par une littérature romanesque qui réagit justement à l'émergence de la bourgeoisie par un durcissement des préjugés à l'endroit des marchands, présentés comme des vilains, et par un renforcement des valeurs aristocratiques de largesse et d'indifférence à l'argent. La première partie de l'Escoufle, consacrée au comte de Normandie, donne l'impression d'une œuvre qui s'inscrit dans la tradition courtoise et qui, mieux que cela, en accentue considérablement les traits. Mais ce n'est là qu'une illusion, celle d'un temps révolu, célébré par un genre avec lequel Jean Renard rompt, ne rompt pas formellement. Il en respecte au contraire les règles, mais pour mieux en subvertir la signification sociale. En conclusion, les cas de figure où le héros connaît une déchéance sociale à travers la condition de vilain ne sont pas traités de façon uniforme et ne présentent pas, c'est une évidence, d'unité et d'autonomie de signification. Le schéma d'abaissement sert des projets qui sont directement liés à l'œuvre concernée, en vertu d'orientations politico-religieuses, comme on l'a vu avec Renaud de Montauban et Gérard de Roussillon, ou d'orientations plus sociales et économiques, en rapport avec l'histoire économique et sociale contemporaine, comme c'est le cas avec le Guillaume d'Angleterre et l'Escoufle. Ce schéma d'abaissement ne fait pas apparaître non plus d'invariants. Les thématiques de la faute, de la pénitence et de l'humilité sont certes les plus largement développées, mais elles ne sont pas communes à tous les cas de figure. Centrales dans l'épisode du déclassement social de Gérard de Roussillon, elles restent en revanche complètement étrangères au récit de Jean Renard. Dieu n'entrant pour rien dans la destinée d'Aélis et de Guillaume. Le schéma d'abaissement d'un grand par la condition de vilain possède donc, dans sa simplicité, une plasticité que ne possède pas le motif littéraire. Mais au-delà de la singularité, voire de l'incongruité du traitement proposé de ce schéma par les auteurs, s'impose une évidence partagée, en tout cas dans Gérard de Roussillon, Guillaume d'Angleterre et l'Escoufle, celle d'une dignité de la condition de ceux qui appartiennent au troisième ordre de la société médiévale, condition jugée inférieure par les clercs, je le répète, et carrément méprisée par les nobles. C'est là le signe d'une parole littéraire capable désormais de s'affranchir des deux idéologies qui la dominaient elle-même. Je vous remercie.